suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel,
Et nous sommes lundi matin sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les premiers lundis matins du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour Max, comment tu vas ? Es-tu essentiel ce matin ?
Eh bien oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien c'est la rentrée, ça y est, on y est. Dis-moi, tu as un invité il me semble aujourd'hui.
Un invité essentiel, figure-toi, incroyable. Alors dans notre nouvelle série, donc je te rappelle, on a commencé une nouvelle série sur les propositions de revenus de base pour prouver que c'est concret et qu'il y en a toute une flopée. Donc on n'est plus dans l'ère de « tiens, mais faut-il un revenu de base ou pas ?» mais plutôt dans l'ère de « mais lequel vous voulez ?» Et aujourd'hui, on va recevoir un essentiel qui s'appelle Frédéric Bosquet. Bonjour Fred.
Bonjour les amis.
Alors je précise Fred que tu viens du bout de la France, donc exceptionnellement nous n'avons pas de Lillois à notre table, mais justement c'est ça qui te rend si particulier. Alors avant de te présenter, pour laisser un petit peu le suspense, je vais te passer à la moulinette de notre questionnette. Imagine, à partir de demain, tous les mois tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire et tu sais que c'est jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Alors, je vais te dire, ça, en fait, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il y a 8 ans, j'ai tout quitté pour vraiment me faire, pour avoir une activité qui me convenait, qui me plaisait, qui était alignée sur mes valeurs.
Oh, le rêve.
Et donc, finalement, je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'aurai sûrement peut-être un peu plus de confort matériel et ce serait plus confortable pour moi. Et par contre, je pense que je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui.
Oui, donc j'entends qu'il y aurait un peu plus de sécurité, mais que finalement, ce fameux choix, tu l'as déjà eu. Mais alors, du coup, si je comprends bien d'après ce que tu dis, c'est que tu t'es pas arrêté de travailler.
Ah ben non, je travaillais même peut-être plus qu'avant. Hein, encore.
Incroyable. Non, parce que tout le monde nous dit que les gens sont fainéants, donc on va finir par croire que c'est pas vrai. Alors moi, j'ai envie maintenant de te présenter. Alors, comme moi, je t'ai rencontré, si tu veux bien, et puis tu m'interromps si je dis une énormité. En fait, on s'est rencontrés dans un festival pour une humanité équitable en 2009, enfin bref, il y a assez longtemps, à Emmaüs, à Montauban. Et tu venais déjà présenter la monnaie locale. Et justement, à partir de là, d'ailleurs, tu me l'as rappelé, tu as rencontré des futurs élus de Toulouse qui ont lancé une monnaie locale à Toulouse. Je vous invite à la découvrir, vous tapez la violette, la monnaie locale violette. Et ensuite, on s'est revus à l'Assemblée constituante du Mouvement français pour le revenu de base. Et tu te qualifies toi-même d'entrepreneur humaniste. Et alors, ce qui est très beau, je trouve, c'est que non seulement tu as du coup cette fibre entrepreneuriale avec cette conscience de l'économie qui n'est pas un gros mot venant de ta bouche. Et ça fait du bien de pouvoir réconcilier ces mots comme bénéfice, investissement, etc. au service de la vie, de la planète comme de l'humain, comme tu le dis toi-même. Et un beau jour, voilà, tu as laissé ton entreprise à tes salariés pour partir en retraite. Alors bon, c'est très à la mode, hein, la retraite. Tu t'es offert ça pour réfléchir, pour te poser. Et tu as même fait 2 tours de France à vélo pour butiner. Alors t'as butiné avec l'idée du revenu de base. Donc toi, c'est ce que tu as apporté. Et en échange, les gens que tu as rencontrés, et notamment tous les lieux d'alternatives que tu as visités, t'ont apporté leur pépite à eux, alors que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la communication, de la production. Voilà, il y a plein de domaines que tu as pu explorer comme ça. Et tu en es revenu avec quelques personnes et vous avez lancé Terra, tous ensemble, vers un revenu d'existence. Et où en est Terra aujourd'hui ? C'est quoi Terra ?
Alors Terra, c'est un peu la réponse à toutes les problématiques que j'ai rencontrées en vélo lorsque j'ai visité ces lieux où les gens avaient tout quitté pour changer de vie et changer la vie. Mmh. Et Terra, en fait, c'est une proposition de relocaliser la production vitale aux habitants d'une zone rurale à revitaliser. Cette production vitale, la valoriser en monnaie citoyenne locale, pour irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer. Et la particularité, c'est que cette monnaie citoyenne locale va être émise sous la forme d'un revenu de base inconditionnel d'un euro supérieur au seuil de pauvreté, contre-garantie par cette production relocalisée et durable, de telle façon que les personnes de ce territoire puissent choisir leur activité, non pas seulement pour avoir un revenu, mais parce qu'ils ont un revenu. Et l'élément aussi déterminant de ce projet, c'est que notre idée, c'est de revitaliser ces petites communes. Il y en a une sur trois en France qui est en train de mourir, pour des raisons démographiques et économiques. Et en même temps, on sait qu'un Français sur deux veut quitter les grandes villes pour venir habiter une ville plus petite.
Mais oui.
Et aujourd'hui, ils ne s'en rencontrent pas parce que justement, il n'y a pas d'investissement dans ces communes qui permettent de les accueillir. Et donc, tout notre objectif, c'est de recréer des productions de base de telle façon à garantir à la fois ses revenus et puis l'investissement nécessaire à accueillir cette population en transition et revitaliser nos campagnes.
Mais donc, en fait, notre rêve de pouvoir aller dans du plus vert, du plus lent, du plus calme, etc., moins pollué, ça pourrait être possible parce que, justement, il y a des outils. Ce que j'entends, hein, c'est qu'il y a une possibilité de revitaliser tout ça de façon respectueuse aussi. On pourrait même, tu crois, peut-être, je ne sais pas, faire attirer des médecins.
Ah ben là, c'est le cas. C'est le cas déjà puisque... là, on lance depuis, on va lancer en mi-octobre une grande levée de fonds pour financer le premier quartier rural en transition de France.
Wow.
Là, c'est fait à Trentel. On a acheté le terrain à la mairie qui est rentré au capital de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée. Et dans le cadre de la création de ce quartier rural, en fait, il va y avoir plusieurs activités qui vont être relocalisées sur ce quartier qui va faire 4 hectares. Et dans lequel on va y trouver de l'alimentation saine, on va y trouver de la production d'énergie renouvelable, des maisons et des bâtiments professionnels durables. On va y retrouver une maison de la transition où il y aura des événements toute l'année autour de la transition. Et juste à côté, il y a une petite maison de santé qui est associée à la mairie et où il y a déjà un kiné, des infirmiers. Et lors de la dernière visite, puisqu'on fait une visite tous les mois à Terra, on a deux médecins qui sont en train de sortir de leur cycle de cours et qui pourraient être intéressés pour venir s'installer à Trentel. Parce que si on arrive à rendre désirable le nécessaire dans ces petites communes, en fait on va réattirer tous les corps professionnels, dont les professions de santé qui malheureusement manquent cruellement dans ces petites communes.
Mais oui, c'est un cercle vertueux, quoi.
Absolument.
Mais alors, du coup, est-ce que tu peux que très concrètement, je pense par exemple à votre maraîcher, alors vous retrouverez son témoignage sur le site de Terra, il y a des témoignages très, très, très riches et très vivants, mais si on prend son exemple en particulier, est-ce que tu peux me dire très concrètement de quoi il vit, comment il gère son activité?
Ben, Chabi, donc c'est notre maraîcher, hein, il s'appelle Simon, mais son surnom c'est Chabi. Et a été le premier à recevoir un revenu autonomie il y a quelques années, puisqu'on avait levé des fonds pour verser 5 revenus autonomie à des personnes qui s'impliquaient sur le territoire. Et une fois que les revenus d'autonomie étaient attitrés, en fait, c'était inconditionnel, dans le sens où que les personnes travaillent ou pas, ils le touchaient pour certains pendant un an et pour d'autres pendant 3 ans. Et Chabi a fait partie de ceux qui l'ont touché pendant 3 ans. Donc, c'était 1 euro de plus que le seuil de pauvreté, donc 896 euros. Donc, 85% en monnaie citoyenne locale et le reste en euros. Mmh. Et donc, grâce à ça, Chabi a commencé à développer des activités autour de la ferme. Il a aussi, justement, grâce à ses revenus, fait autre chose que uniquement produire des tomates. Il a contribué aussi à participer à la création d'un écosystème coopératif territorial. Et en quelques années, ce n'est pas une activité qui... développé au niveau de la ferme, c'est beaucoup plus, puisque maintenant on a une production de tisane, on a une personne qui fait de la transformation de fruits et de légumes qui sert des repas. On reçoit entre 300 et 400 personnes par an à travers des visites inspirantes autour des écosystèmes coopératifs territoriales. On a aussi derrière maintenant, depuis peu, une brasserie locale. L'aménité, très joli nom. Et puis, il y a même une petite menuiserie qui s'est installée avec Hélène sur la ferme. Et puis surtout, il a aussi contribué, justement, parce que il n'était pas lié uniquement à la production, à la création d'une épicerie producteur qui s'est créée sur le tournant d'Agenais. C'est lui qui a commencé à venir avec ses légumes en cagette dans le jardin du siège de Terra. Et puis, progressivement, les gens se sont organisés. On a monté une petite épicerie d'abord dans le garage, puis après dans le sous-sol quand ça a grandi. Et puis là, depuis maintenant un peu plus d'un an, la mairie nous loue au cœur du petit centre-bourg un local dans lequel maintenant on a une épicerie de producteurs avec une quarantaine de producteurs. Et ces producteurs vendent leur production en monnaie locale et en euros aux gens du village et aux terriens. Et je pense que ce qui a aussi permis aussi cette dynamique, c'est pas seulement aussi produire pour produire, c'est aussi rendre attractif le territoire à travers une communauté politique, donc une communauté de destin, c'est-à-dire on est là tous pour instaurer un premier ou une base en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par cette production relocalisée durable. Et donc cette communauté politique, elle attire aussi des personnes de son territoire. Et du coup, ça nous a permis aussi de constituer, comme on l'a vu, une communauté de travail, mais aussi une communauté de vie avec des gens qui boivent des coups ensemble et qui font autre chose aussi que juste travailler et faire de la politique. Et on est passé, quand on a versé les premières en autonomie, on devait être, je pense, peut-être une vingtaine. Et maintenant, on est plus de 80 habitants avec femmes, maris, enfants. Il y a même des grands-parents qui sont venus s'installer pour être plus proches de leurs enfants et des parents quoi, pour être plus proches de leurs enfants. Et donc, aujourd'hui, on a accompli la première étape qui était de dire oui, on peut aujourd'hui revitaliser cette commune. Puisque la commune dans laquelle on est installé, de Tournon d'Agenais, c'est à peu près 700 habitants, ce qui veut dire qu'on a fait croître de plus de 10% la population de cette petite commune qui est dans cette zone rurale. Et en même temps, c'est très important, c'est qu'on a abaissé la moyenne d'âge des habitants de cette commune à 38 ans, alors qu'elle est de plus de 55 ans aujourd'hui.
Ah oui, quand même.
Ce qui veut dire qu'effectivement, on est capable aujourd'hui, à travers un projet comme le nôtre, de revitaliser ces petites communes, qui nous a d'ailleurs donné tous les éléments de preuve, en quelque sorte, les moyens de passer à ce changement d'échelle, qui est aujourd'hui de faire ça à l'échelle d'un quartier rural de 4 hectares à Lustrac. D'ailleurs, on appelle ça Lustrac en transition. Si vous tapez sur Internet, vous trouverez sur le site du quartier rural. Et ce quartier rural va être vraiment un outil d'émancipation, puisqu'on va le concevoir de telle façon qu'il puisse être réplicable et sémable dans d'autres petites communes de France. Qui permettra aux gens de pouvoir transférer.
Donc en fait, vous êtes en train, en même temps que vous faites et que vous expérimentez, d'analyser le process pour qu'après il y ait quelque chose qui puisse être transférable et voilà, d'autres puissent se l'approprier pour le tester ailleurs, c'est ça?
Exactement.
Mais alors, vous avez un suivi, un accompagnement politique là-dessus ou économique? Comment ça se passe?
Alors depuis le début, on a toujours voulu avoir un accompagnement d'un conseil scientifique. Donc dès 2016, on a passé un partenariat avec un laboratoire qui s'appelle Athénis, qui depuis les années 70 analyse les mutations du travail. Et ils ont développé un référentiel qu'on appelle le référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et donc, avec un financement de l'ADEME, on a financé un accompagnement scientifique pendant 3 ans du projet. Mmh. On a réuni un certain nombre de chercheurs, des économistes, agronomes, psychologues du travail, pour justement faire des allers-retours entre l'expérimentation qu'on faisait et l'émergence, en fait, que l'on pouvait utiliser sur le territoire. Et donc, avec leur soutien, avec leur accompagnement, on a échangé. Et ça nous a permis de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait dans le projet et de pouvoir ensuite intégrer leurs conseils dans l'ajustement de l'expérimentation, de telle façon à chaque année, on puisse améliorer, raffiner, rendre plus robuste ce qu'on avait découvert par l'expérimentation. Et c'est comme ça qu'en plusieurs années, depuis 2016, on est passé de quelques milliers d'euros d'investissement dans le territoire, maintenant plus de 1 600 000 euros. Et on a aussi été capable, et c'est très important, grâce à ce travail sérieux avec le conseil scientifique, de mailler les parties prenantes du territoire. Que pour nous, on voulait pas être juste, que des activistes ou des volontaires.
Une petite bulle en autarcie.
absolument. Ça, pour nous, c'était absolument pas le projet dès le départ. On a toujours voulu se relier avec le territoire et faire entrer en transition le territoire. On a toujours pensé qu'il fallait passer de très tôt. On est parti avec cette idée de faire un éco-village, mais très vite, on est arrivé à l'écosystème coopératif territorial parce qu'on sentait que l'éco-village serait trop étroit pour en faire entrer en transition la société et qu'il nous fallait mailler les parties prenantes du territoire et donc qu'il n'y ait pas de séparation entre nous et les acteurs locaux. Et donc, justement, grâce à ce travail qu'on a fait avec le côté scientifique, grâce aux productions qu'on a commencé à mener sur le territoire, on a commencé à être visible par les acteurs locaux. Et donc, progressivement, on a fait rentrer les mairies, le département, la région, l'ADEME, l'Europe. Et depuis peu même, on a été reconnu comme un PTCE par le ministère de l'économie. Donc, PTCE, ça veut dire
poste de coopération
territoriale économique. Poste territorial de coopération économique, pardon. Donc, ça montre qu'on peut faire un projet de transformation sociétale et en même temps être soutenu par les parties prenantes de notre société, quoi. C'est hyper important pour nous.
Oui, puis j'imagine que s'ils s'engagent, c'est qu'ils ont pu voir des indicateurs qui les convainquaient. Sinon, ils vous auraient pris pour une bande d'hurluberlus comme il y en a certains qui se lancent dans des oasis, mais qui n'ont pas d'impact autour.
Absolument. Et ça, c'est vraiment un des fondements de Terra. Je vais te donner une métaphore que j'aime beaucoup utiliser. Une ou deux fois par an en Suisse.
Une image.
pour participer à un master là, sur le développement territorial où je présente Terra à chaque fois. Et à la Suisse, on n'a pas les mêmes prises que nous. Et donc, ils m'ont offert un adaptateur que je mets sur ma prise pour brancher sur la prise. Mmh. Et Terra, c'est un peu cet adaptateur, en fait. L'idée, c'est que la prise doit se brancher correctement sur la société telle qu'elle est. Et l'énergie qu'on va puiser, en fait, de cette connexion, va nous permettre à nous, ensuite, de créer une nouvelle société, en fait, qui correspond plus à nos valeurs, ou en tout cas à la transformer suffisamment pour intégrer de façon constitutionnelle, en base inconditionnelle pour tous les habitants de cette planète, et faire en sorte que nos productions soient durables. C'est hyper important pour nous que ces productions soient durables. C'est pour ça que, dès le départ, on a voulu faire un rue de base inconditionnel à mon institution locale, contre-garantie par une production relocalisée durable. Ce qui ne veut pas dire que si aujourd'hui on votait un rue de base inconditionnel, je ne le voterais même pas pour 1 euro. Je dis souvent que je voterais un rue de base inconditionnel, même pour 1 euro s'il le fallait, à condition bien sûr que toutes les aides restent les mêmes. Mais parce que je trouve que le levier, le bras de levier de transformation sociétale, c'est aujourd'hui, c'est moins le montant que le fait de donner de l'argent à quelqu'un sans lui demander une contrepartie directe dans une production marchande. Et je crois que c'est une fois qu'on aura fait passer cette idée qu'il y a 3 types de revenus, on va dire, il y a le revenu marchand que tout le monde connaît, qui est issu d'une activité marchande sur les marchés. Il y a aussi ce que nous on appelle le revenu de la transition, les revenus de transition, qui sont des revenus qui sont issus de mon activité au service des communs. On pourrait dire ce sont les revenus des fonctionnaires, pour aller vite, mais aussi fonctionnaires 2.0 qui s'occupent de la planète et des humains. Et puis il y a un troisième revenu qui est le revenu de base inconditionnel, qui lui en fait est donné en fait à tous les citoyens pour qu'ils puissent interagir avec la société et créer une demande solvable en fait pour toutes les entreprises de telle façon à ce que ils n'aient pas à se poser la question de savoir si demain matin ils vont pouvoir vendre leur production parce que les gens n'ont plus d'argent. Donc ces 3 revenus, pour moi, ils se cumulent l'un avec les autres. Et par contre, la contrainte qu'on a, en tout cas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a fait pour une autonomie en monnaie citoyenne locale, c'est que si on le donne 1 euro, aujourd'hui, on risque de se retrouver avec des problèmes extrêmement importants qui sont ceux que c'est les mêmes qui vont en profiter, en fait.
Oui, les banques.
On sait que 80% des réseaux de distribution sont des multinationales. On sait que 85% de la production qui circule dans ces multinationales sont faites aussi par des multinationales. Ce qui fait que si on verse 800 euros par mois à quelqu'un, il va forcément le dépenser en grande partie dans ces réseaux de distribution. Et ça, ça vient finalement lui tirer 2 balles dans le pied.
Oui.
Parce qu'effectivement, on ne va faire que renforcer les inégalités et la destruction de la planète. Alors que si aujourd'hui, on se met d'accord pour commencer à verser sur une base inconditionnelle en monnaie locale contre garantie par une production relocalisée durable, on va faire d'une pierre trois coups. D'une part, on va apporter une sécurité aux gens qui vont pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir, être informés et se déplacer de façon douce grâce à cette monnaie, grâce à son une autonomie en monnaie locale. Oui. En même temps, on va rendre la demande solvable dans ces communes, puisque ce revenu garanti en fait en monnaie locale va revenir directement dans les poches des acteurs locaux, puisqu'ils ont été agréés pour leur respect des humains et de la nature. Donc ça va transformer en quelque sorte sur une base en monnaie citoyenne locale en bulletin de vote pour les acteurs locaux.
Et choisi par les citoyens eux-mêmes, ouais, avec leurs valeurs.
Voilà. Exactement. Et troisièmement, en fait, ça va faire aussi que les collectivités territoriales vont avoir des revenus dérivés de cette nouvelle activité locale. Et ils vont pouvoir de nouveau avoir des taxes, des cotisations, des impôts qui vont permettre de réengager en fait les services publics dans ces communes et faire en sorte de désendetter aussi les collectivités territoriales qui aujourd'hui sont dans une situation extrême. Et donc, vous voyez, avec un seul revenu de base en monnaie locale contre-garantie par une production relocalisée durable, on a comme ça trois effets. Un effet sur le citoyen d'émancipation, un effet sur les entreprises de stabilisation de la demande solvable, et puis un effet sur les collectivités territoriales qui vont de nouveau pouvoir assurer les garanties publiques dans vos communes. Donc, c'est quand même...
J'aime beaucoup le côté vision systémique qui laisse personne de côté et qui prend en compte les différents niveaux finalement de corps, le corps humain, le corps social de proximité, le bassin de vie et le corps un peu plus large. Et c'est vrai que si j'ai bien compris, le fait de le donner en monnaie locale, ça crée une sorte de bulle, de champ magnétique qui protège un petit peu des dérives de l'euro et de tous ceux qui s'en remplissent les poches finalement. Et ça permet de respirer à l'intérieur de cette bulle et de pouvoir faire nos propres choix de citoyens, des choix en accord avec nos valeurs et puis juste notre vie quoi, finalement, ce qui est bon pour nous, nos enfants et la planète. Et ce que tu dis et ce que vous êtes en train d'expérimenter avec des scientifiques et des politiques pour observer tout ça, c'est que ça marche quoi. Je vais te proposer de faire une petite pause musicale pour laisser aussi à nos auditeurs le temps d'infuser tout ça. Et à la fin de la pause musicale, on ira écouter les étudiants d'études d'Agrotech Paris qu'on a entendu, qui sont passés en boucle il y a 4 mois sur les ondes et qui envoient balader leur promesse d'ingénieurs super calés dans des grandes entreprises pour justement avoir plus de sens. À tout de suite.
Pour que ma vie soit plus rose, j'ai décidé enfin de changer le cours des choses. J'ai pris mon courage à deux mains avant qu'il s'envole. Pour que ma chance arrête de me tourner le dos, j'ai décidé sans tarder de brûler mon bureau, de ne plus travailler seulement pour payer mon loyer. Et depuis, je vis à la campagne, je suis jardinier. Pouvez me trouver sous la paille ou dans le potager. L'autre jour, avant les moissons, un ami à qui je chantais ma chanson m'a dit: moi aussi j'en ai assez de vivre pour travailler. Il faut, lui dis-je, cultiver son jardin, balayer devant sa porte enfin toutes ces choses-là. Tu sais mon ami, il y a une vie après Paris. Et lui aussi, bah, il vit à la campagne, il est jardinier. Pouvez le trouver sous la paille ou dans le potager. Au printemps suivant, Naomi Campbell est venue me voir, elle est toujours aussi belle. Elle m'a dit comme ça en me tenant le bras: oh, j'en ai marre de prendre tous ces avions, tu sais. Ah bon? Écoute ma chérie, je peux pas te laisser comme ça. Au fond du jardin, y a une cabane en bois. Habite là quelque temps, et moi je préviens tes parents. Et maintenant, elle vit à la campagne. Elle est jardinière. Pouvez le trouver sous le paille ou dans le potager. Le président de la République avait bien des soucis. Il a eu vent des bienfaits de ma philosophie. Cher poisson, comment faites-vous, vous, pour tenir le coup? Voilà, c'est tout. Il vit à la campagne. Il est jardinier. Pouvez le trouver sous la paille ou dans le potager. Si vous, mes amis, vous souffrez aussi de cette vie arrangée où règne le profit, vous savez où nous trouver. Alors rejoignez mon meilleur ami, cette fille très jolie, un président content. Et voilà, le président est content. Et depuis tous ensemble on chante. On vit à la campagne. On est jardinier. Bon, 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 bon. Pouvez nous trouver sous la paille ou dans le potager. Car on vit à la campagne. On est jardinier. On est jardinier. Et pouvez nous trouver sous la paille ou dans le potager. Oh, oh, oh. Ou dans le potager. Et voilà.
Et donc, les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous voyons plutôt que nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
AgroParisTech. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs, et les choisir, c'est nuire, en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions, et qui ont choisi de déserter.
Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent, que ce doute soit quotidien ou fugitif. À vous, qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous, dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentez le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Vous qui prenez le TGV tous les week-ends en quête d'un bien-être jamais trouvé. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, ou qui espériez changer les choses de l'intérieur et n'y croyez déjà plus. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté, et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système, et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
Comment est-ce que ça a commencé ? Nous avons rencontré des personnes qui luttaient, et nous les avons suivies sur leur terrain de lutte. Ils nous ont fait voir l'envers des projets que nous aurions pu mener en tant qu'ingénieurs. Je pense à Christina et Emmanuel, qui voient le béton couler sur leur terre du plateau de Saclay. Je pense à ce trou desséché, une compensation bien dérisoire à une mare pleine de tritons. Ou encore à Nico, qui voit de sa tour d'immeuble les jardins populaires de son enfance rasés pour la construction d'un écoquartier. Ici et là, nous avons rencontré des personnes qui expérimentent d'autres modes de vie, qui se réapproprient des savoirs et des savoir-faire pour ne plus dépendre du monopole d'industries polluantes. Des personnes qui comprennent leur territoire pour le vivre, pour vivre de lui sans l'épuiser, qui luttent activement contre des projets nuisibles, qui pratiquent au quotidien une écologie populaire, décoloniale et féministe, qui retrouvent le temps de vivre bien et de prendre soin les unes les uns des autres. Toutes ces rencontres nous ont inspirés pour imaginer notre propre voie.
J'habite depuis 2 ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses.
Moi, je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné.
J'ai rejoint le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France.
Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin.
On s'installe en collectif dans le Tarn sur une ferme tardelien avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs.
Je m'engage contre le nucléaire près de Bure.
Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains.
Nous considérons que ces façons de vivre sont plus que nécessaires et nous savons qu'elles nous rendront plus fortes et plus heureuses.
Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV, de vous éloigner de votre famille et de votre réseau, de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrait une carrière d'ingé agro. Mais quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon ? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite ? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop ? Et puis, un burn-out à 40 ans ? Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes, et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de woofing, participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs, vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin, vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
Et donc on a pu écouter l'ami Labelle et le président de Tom Poisson, suivi de du discours des étudiants d'Agrotech.
ces étudiants, finalement, je me raconte que, alors on les voit dans leur témoignage aussi, qui se lancent par eux-mêmes déjà avec leurs petits moyens de quelqu'un va faire du bois, quelqu'un va partir en maraîchage bio, etc. Et finalement, l'exemple de Terra me semble être un bon réceptacle pour des énergies pareilles. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses quand on parle de grande démission?
Ah ben oui, là on est complètement raccord avec tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que la première chose, en fait, si on veut arriver à changer la société, quand je dis changer la société, c'est pas la changer pour la changer, c'est vraiment faire en sorte que cette société soit plus protectrice des humains et de la nature. Il faut nous réapproprier 5 clés, en fait. Et ces 5 clés, elles sont fondamentales à bien comprendre, parce que ça marche ensemble. Et je trouve que ces ingénieurs ont déjà bien compris une bonne partie de ces clés. Et je pense que ça peut vraiment aider nos auditeurs à comprendre les priorités qu'on a aujourd'hui. Donc la première des priorités, c'est de se réapproprier la production. La production vitale, c'est vitale. Cette production, en fait, elle est essentielle. Et elle n'est pas illimitée, c'est assez simple, c'est de l'alimentation saine, c'est de l'eau potable, c'est le recyclement de nos déchets organiques et nos déjections sur place, au plus proche possible des lieux où les gens habitent, c'est la création de maisons durables ainsi que de bâtiments professionnels durables, c'est-à-dire qu'ils soient fabriqués avec des matériaux locaux et qui consomment de façon raisonnable de l'énergie. C'est la production d'énergie renouvelable au plus proche possible des lieux de consommation, avec derrière toute une optimisation de nos consommations énergétiques de telle façon à ce que ça puisse être pris en charge par ces énergies renouvelables. Puis après, c'est un ensemble de flottes de véhicules en partage pour faire baisser notre empreinte carbone. C'est pas possible aujourd'hui qu'on continue à déplacer 60 kilos avec des voitures qui font 2,3 tonnes. Alors qu'on sait très bien que toutes ces problématiques-là sont en train de nous tuer à petit feu, c'est le cas de le dire. Et puis derrière, il nous faudra aussi produire tout un ensemble de services autour de la sensibilisation, l'accompagnement, l'information, la formation, à la transition et à la culture. Et donc, cette première partie de la production, il est extrêmement important que les citoyens se la réapproprient. Et je dis souvent que si vous voulez commencer par faire quelque chose d'utile, commencez par dépenser 15% de vos revenus en monnaie située locale vers ce type de production dont vous avez besoin au quotidien. Tout le monde peut dépenser 15% de ses revenus dans l'économie locale pour ses biens de production vitaux. La deuxième clé pour moi, c'est vraiment le réseau de distribution. Ça sert à rien de se réapproprier la production si derrière, en fait, les réseaux de distribution de cette production prennent toute la valeur ajoutée au détriment des
grandes surfaces, compagnie.
Exactement, voilà. Donc, il nous faut aussi recréer des circuits courts de distribution. Et quand je dis des circuits courts, moi, je dis aussi des circuits très, très courts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée une maison autonome, nourricière, écologique et recyclable, ça veut dire qu'une grosse partie, finalement, de nos besoins vont être satisfaits par notre propre maison. Et donc, il nous restera très peu de choses. Finalement, je parle encore une fois de biens vitaux. Le reste, bien sûr,
Oui, ce que j'entends.
C'est vital, on peut se le procurer dans des réseaux en circuit court. Et là, pareil, tout le monde est capable aujourd'hui de dépenser 15% de ses revenus à monnaie située locale à travers ces réseaux de distribution en circuit court. La troisième clé, c'est la monnaie. Ça ne sert à rien d'avoir une production relocalisée durable, ça ne sert à rien d'avoir des réseaux de distribution en circuit court si la monnaie qu'on utilise capte la plupart des valeurs, puisque sa mise en circulation est conditionnée à des crédits qui derrière génèrent des intérêts cumulés, qui fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, les collectivités locales et les citoyens sont à genoux, parce qu'en fait, on nous fait payer en quelque sorte des intérêts cumulés sur la création monétaire, ce qui fait qu'à un moment donné, plus on utilise de monnaie, et plus on s'endette, et plus on s'endette, et plus on est pauvre. Et donc là, il y a vraiment une réappropriation citoyenne de la monnaie à faire, qui va nous permettre justement de donner de l'élan à cette production et à cette distribution qu'on aura mis en place, d'où la monnaie citoyenne locale utilisée dans notre projet comme un moyen justement de relocaliser ces capitaux et cette monnaie en circulation. Le quatrième, tu le connais bien, Virginie, puisqu'on travaille
revenu de base. Des années,
c'est le revenu de base inconditionnel, parce que si on a la production, qu'on a les réseaux de distribution, qu'on a une monnaie citoyenne, mais que derrière les revenus fluctuent en permanence à cause des marchés financiers internationaux et des marchés du travail, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas stabiliser la demande semblable pour les entreprises locales et qu'elles ne peuvent pas se projeter dans l'avenir et donc elles ne peuvent pas investir, elles ne peuvent pas embaucher, elles ne peuvent pas se donner du temps, en fait, pour se développer. Donc, le revenu de base inconditionnel, condition aussi pour le redéveloppement de nos territoires, avec derrière cette idée qu'en plus, il puisse être versé en monnaie citoyenne locale pour justement garantir que cet argent ira en premier vers des acteurs respectueux des humains de la nature. Et le dernier, qui à mon avis est fondamental et qui est, je pense, aussi un des éléments clés de ce qu'ont dit les ingénieurs, c'est qu'on doit absolument se réapproprier la gouvernance. Parce que, encore une fois, si on a la production, qu'on a la distribution, qu'on a les moyens d'échange, qu'on a les revenus, mais que les lois qui sont votées vont à l'encontre du respect des humains et de la nature, ils vont à l'encontre de ce qu'on veut créer, ce serait un peu comme pédaler en sens contraire du vent sous la pluie. C'est-à-dire qu'on a une bonne bécane, on a de bons muscles, mais c'est beaucoup trop dur de se développer. Donc, il nous faut nous réapproprier la loi. Et pour se réapproprier la loi, il faut travailler à construire des comités territoriaux de dialogue avec toutes les parties prenantes de la République, les élus, les habitants, les entreprises, les associations, les partenaires financiers, les chercheurs, de telle façon à ce qu'ensemble, on puisse réorienter ce que nous, on appelle ici un écosystème coopératif territorial, c'est-à-dire l'association en interaction de ces cinq clés, de telle façon à piloter le développement territorial.
Reprendre notre pouvoir.
Exactement, et faire en sorte que les communes puissent redevenir des lieux où les gens peuvent s'installer dans la durée et changer la vie.
Je voudrais te remercier, Frédéric, parce que pour moi, c'est vraiment une réponse très, très concrète à ceux qui sont contre le revenu de base, non pas vraiment par rapport au revenu de base lui-même, mais parce qu'ils ont peur que, du coup, un État viendrait nous donner voilà, un minimum de subsistance et le conditionnerait, alors certains au vaccin, certains autres à des heures de travail type esclavage, etc. Et du coup, il y a vraiment cette peur que le revenu de base, ça nous rende encore plus dépendants d'un État dont on aurait perdu le contrôle, alors que là, c'est en fait tout l'inverse, mais en partant de la base, en partant de chacun et en partant des compétences et des envie surtout, parce que voilà, je repense à Simon qui finalement, ou même toi, qui disait que vous bossiez finalement vous bossez encore plus avec votre revenu de base, parce qu'il y a de l'envie, quoi, il y a de l'envie, il y a du sens, il y a de la communauté, il y a du lien, il y a de l'appartenance, voilà, c'est jouissif à entendre, et que tout le monde peut y trouver sa place, parce qu'à partir du moment où on est un être humain, on fait partie de la communauté, quoi. Donc merci beaucoup pour cette expérimentation qui non seulement nous prouve que le revenu de base, c'est quelque chose qui est crédible, que allié à une monnaie locale, ça devient vertueux et que chacun peut s'y plonger, quoi. Enfin, je sais pas dans combien de temps tu penses que n'importe quel autre village pourrait s'emparer de votre process.
Alors ben justement, tout le travail qu'on a fait là depuis bientôt 2 ans, c'est de formaliser tous les résultats de cette expérimentation à travers un projet de quartier rural en transition. Donc on va faire donc sur Printel, dans lequel on va faire un petit peu de façon beaucoup plus systématisée ce qu'on a fait pendant 6 ans pendant l'expérimentation. Et on a fait un business plan, en fait, avec une évaluation des recettes, des dépenses, des excellents bruits d'exploitation qui vont nous permettre de financer les premières revenus de base. Et donc, on pense qu'à partir de 2026, on pourra commencer à avoir les excédents de production de ce quartier rural, ce qui veut dire qu'à partir de 2026, on pourra commencer à créer des formations pour des acteurs locaux. Notre idée, c'est que ces formations durent 6 mois, qu'elles soient Datadoc et Calliope. C'est-à-dire que les gens puissent, par une rupture conventionnelle avec leur employeur, s'inscrire à un pôle emploi, puis ensuite entrer dans ce parcours de formation professionnalisant de 6 mois, qui sera payé par Pôle emploi, et qui leur permettra d'élaborer dans notre quartier rural leur projet de quartier euro, avec derrière tout un ensemble de formations, d'accompagnement, pour qu'ils puissent repartir avec un projet ficelé et pouvoir s'installer ensuite dans une commune, soit qu'ils ont déjà choisi, soit que nous aurions en répertoire. On connaît pas mal de communes aujourd'hui qui aimeraient bien accueillir des quartiers ruraux en transition.
Ah oui, tu m'étonnes.
Et puis développer ce projet et créer autour d'eux une trentaine de... Enfin, 28 équivalents temps plein et une vingtaine d'autonomies verser de la naissance à la mort aux habitants de ces quartiers.
Wow.
Donc, 2026,
J'ai une dernière petite question, parce que là, on a parlé d'agrotech, etc. Et je voudrais pas non plus que ce qui reste de cette émission, c'est que voilà, c'est un super projet que peuvent lancer quelques bobos qui ont déjà beaucoup d'expérience, d'études et un sacré réseau et une confiance en soi aussi, parce que pour se lancer là-dedans, c'est quand même pas anodin. Enfin, voilà, je suis prof de français. Qu'est-ce que tu veux que j'aille servir dans un écosystème où je pense à la mère célibataire avec deux enfants. Enfin, est-ce que vraiment tout le monde peut se lancer dans ce genre de projet, trouver sa place dans ce genre de communauté et pour que ça devienne vraiment ou que ça tende à devenir universel?
On le voit, les personnes qui viennent à Terra, on en reçoit maintenant beaucoup, on en refuse même 3 sur 5. C'est vraiment des gens de tout milieu. Hein. On a des cadres supérieurs de Veolia, entre guillemets. Puis on a des jeunes en rupture de société qui arrivent désespérés de l'état du monde avec même pas un RSA puisqu'ils ont moins de 5 ans. Et puis entre les deux, on a tous les cas possibles. On a des gens qui avaient un bon revenu, un bon métier et qui ont décidé de tout quitter pour leurs enfants. On a plusieurs couples qui ont divisé par 3 ou 4 leurs revenus pour venir s'installer ici. On a aussi des personnes, des ouvriers, des anciens coiffeurs, des étudiants.
Quelle richesse.
Vraiment des retraités. C'est vraiment très, 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 très divers. Et je pense que oui, tout le monde peut aujourd'hui changer de vie pour changer la vie, sans que ce soit une rupture poilue et musclée en quelque sorte.
Mais c'est ça, les mains dans la terre.
C'est ça. Je crois qu'on peut y aller. On peut y aller progressivement, par degrés. Et je dis souvent à mes amis quand ils me disent oui, mais nous, on ne peut pas forcément tout quitter pour partir. Qu'est-ce qu'on peut faire nous depuis l'avant où on est? La réponse est assez simple pour moi. C'est prendre 15% de tes revenus et dépenser en monnaie citoyenne locale dans la ville dans laquelle tu es. Mmh. Et s'il n'y a pas de monnaie citoyenne locale, crée-en une avec tes voisins, de telle façon à te reconnecter avec des productions relocalisées durables, parce que dans les années à venir, ça risque de tanguer. Et si tu es dans un écosystème coopératif territorial, ce sera plus facile que si tu es tout seul, perdu dans un grand immeuble au 4e étage. Le deuxième élément, c'est si tu as de l'épargne, investis 15% de ton épargne dans des entreprises responsables locales qui produisent des biens et des services vitaux pour ta communauté. Donc 15% de ton épargne, tout le monde peut mettre 15% de son épargne au capital d'entreprise. Et c'est ça aussi des circuits courts. C'est pas mettre son argent sur une assurance de vie dont on ne sait pas où elle est investie, mais mettre son argent dans des entreprises qui produisent des biens et des services vitaux aux habitants de ta communauté. Et puis la troisième étape, le troisième élément, c'est mettre 15% de ton temps de vie à créer des écosystèmes coopératifs territoriaux ou de créer un écosystème coopératif territorial autour de toi en te reconnectant en fait avec des entreprises qui produisent des biens et des services vitaux à ta communauté. Et je pense que déjà si chacun en était capable de faire ça et que chacun ensuite on pouvait prélever 15% de cette richesse pour la redistribuer de façon inconditionnelle aux habitants de cet écosystème coopératif territorial, alors on aurait vraiment accompli un grand pas pour l'humanité. Et pourtant, c'est un petit pas.
un petit pas pour chacun et un grand pas pour tout le monde, quoi.
Exactement.
Mais écoute, merci beaucoup.
Et du coup, si je comprends bien, en fait, ça passe tout le temps par la monnaie locale, cette histoire.
Oui, alors moi, je pense que je préfère parler de monnaie citoyenne locale, parce que pour moi, la monnaie locale, ça peut être une monnaie bocale. Et il ne faut pas s'enfermer dans une monnaie bocale, on n'est plus au Moyen-Âge. Et il y a une intrication entre tous les acteurs de la société. Nous, on parle plutôt de monnaie citoyenne locale. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'une monnaie citoyenne locale, elle est capable de s'échanger un pour un avec d'autres monnaies citoyennes locales. Et notre idée, c'est de mutualiser tous ces fonds de garantie de monnaie locale, de telle façon à avoir un fonds de garantie qui puisse peser sur les rapports financiers de notre société. Et s'il y a 500 ou 600 petites monnaies locales qui chacune à un fonds de garantie en euros sur une même banque éthique, très rapidement, ça peut se transformer en un outil extrêmement puissant pour faire de notre monnaie un bulletin de vote. Donc c'est très très important que les monnaies citoyennes locales puissent s'échanger les unes avec les autres, de telle façon à ce qu'avec une seule application, on puisse payer partout en monnaie locale. Et, et quand je dis partout en monnaie locale, c'est dans le monde entier. Je rêverais, moi, de pouvoir acheter un ordinateur en titikaka à une entreprise japonaise qui fait des ordinateurs respectueux des humains de la nature. Donc, il ne faut pas voir la monnaie locale comme une monnaie bocale. Il faut voir la monnaie locale comme un moyen, comme un label qu'on va poser sur une monnaie pour être certain qu'elle produit des biens et services utiles à la population et dans le respect de la nature et des générations futures. La monnaie bocale, moi, je n'y crois pas. Je crois à la monnaie citoyenne locale.
En fait, c'est une façon de reprendre notre pouvoir sur notre propre monnaie, de retirer une grande partie du pouvoir des banques privées, de la BCE. On va pas refaire, on en a déjà parlé de ce sujet-là, notamment autour de la monnaie libre aussi, et de pouvoir retrouver des espaces pour respirer, pour faire des choix.
Absolument.
Et j'ai une autre image à vous proposer, c'est l'image des sables mouvants, ça me revient, de dire que voilà, toutes ces grandes entreprises qu'on exècre, qui ne payent pas leurs impôts, etc., et qui nous polluent dans tous les sens du terme, que ce soit l'esprit comme le corps ou comme la planète, en fait, avec des monnaies locales ou d'autres initiatives, mais surtout celles-là, en fait, ça rend fluide le sol sur lequel elles sont bâties. Et sans qu'elles s'en rendent compte, en fait, on crée des réseaux souterrains, des rivières entières, et puis un jour, elles vont s'effondrer juste parce qu'on leur aura enlevé leur pouvoir grâce à notre façon de consommacter, être consommateur et de changer de monnaie finalement. On leur soustrait le pouvoir qu'elles ont sur nous par petits grains de sable, et je suis persuadée que tous ces petits grains de sable vont nous sauver un jour, parce que c'est une façon de co-construire dès aujourd'hui des alternatives pérenne, tu disais durable et en plus jouissive. C'est ça qu'il faut. Enfin voilà, quand j'ai visité Terra et je connais un certain nombre de personnes qui sont venues s'inspirer aussi auprès de vous, elles en reviennent avec des étoiles dans les yeux et vraiment aussi, même si on n'a pas tous une monnaie locale près de chez soi ou pas tous envie de partir à la campagne, n'empêche que ça rebooste beaucoup de voir toutes ces énergies et ce cercle vertueux de reprise de pouvoir. Et de plaisir, voilà. J'avais envie de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Fred, pour nous avoir consacré tout ce temps-là. Et j'ai envie de vous faire partager une petite pépite que j'ai découverte cet été. Figure-toi que je suis allée dans le trou du cul de la France, la Creuse. La Creuse qui est peut-être un peu moins perdue que là où tu es, mais encore. Et j'ai découvert un groupe qui s'appelle Sans Conteste et qui va nous chanter « Le travail ». Et je pense que ça pourrait donner quelques idées. Merci beaucoup, Fred, à très bientôt. Et on envoie nos auditeurs sur le site de Terra.
Qui est le site de Terra? C'est donc quoi?
C'est www.terra.coop.
Avec des vidéos, des appels à contribuer. Voilà, allez vous ressourcer, allez butiner et polliniser. Et faisons-nous du bien, voilà, parce que c'est plus du rêve. Terra existe déjà, et tu nous as dit en 2026 il y aura des petits terras partout. Donc
alors on commencera à essayer des petits terras.
Ouais. Merci Fred, on te laisse pour tes réunions, parce que je sais que tu essaimes aussi auprès de publics très variés, d'entrepreneurs, de comptables, de... Je ne sais plus qui est-ce que tu vois là juste après nous.
Ben là, on va travailler avec notre expert comptable qui est un spécialiste dans la comptabilité écosystémique, et puis un juriste pour travailler sur les conventions de prestations écosystémiques qu'on va mettre en place dans le quartier rural. Wow. Pour que justement toutes les entreprises qui contribuent à produire pour le quartier rural dégagent un petit excédent qui va tomber dans un fonds de dotation qui permettra après de redistribuer ça à égalité entre tous les habitants du quartier rural. Et donc, c'est un peu le moyen par lequel on va instituer en quelque sorte un vrai revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par cette production relocalisée et durable, donc qui viendra directement des entreprises du territoire et pas d'un État ou d'un...
Ah oui, c'est quand même bien, bien technique, hein, le revenu de base, on dirait pas comme ça.
Ben, tu sais, moi, je dis souvent... En ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que la complexité des problèmes est grande, les gens reviennent à la simplicité. Mais la simplicité, il faut pas que ça devienne non plus le simplisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dogme en ce moment où il faudrait trouver des trucs simples. Or, si vous regardez qui nous sommes, ben, quand on dit le mot simple, on fait appel à des choses extrêmement complexes. Dire le mot simple, ça implique d'avoir un corps, ça implique que ce corps il soit fait d'organes, que ces organes soient faits de cellules, que ces cellules soient faits d'ADN, que tout ça est dans un milieu qui est complexe. Donc nous, on préfère parler de, avec Edgar Morin, d'ailleurs, qui parraine le projet, on préfère parler de simplexité. C'est-à-dire la simplexité, c'est comment faire des choses simples, mais en prenant en compte la complexité de la façon dont on va devoir les faire. Et je pense que c'est super important de dire aux gens, attention les amis, oui, on peut transformer la société, mais c'est pas simple. Et il faut sortir de cette illusion que ça va être des choses simples. Non, ce n'est pas vrai. Rien dans notre vie est simple. Même si on fait des choses simples, la façon dont on fait ces choses simples est complexe. Et donc, il faut confronter la complexité, il faut la dénouer, il faut l'expliciter, il faut la rendre accessible. Mais il ne faut pas la nier, parce que la nier et la dégrader, c'est aller vers des solutions qui, moi, me font très, très peur. Très, très peur.
Oui, c'est plus dictatorial qu'autre chose. En tout cas, merci beaucoup de défricher pour nous tout ça, parce que ça va nous simplexifier la vie, de marcher sur vos traces.
Exactement, c'est exactement ça.
Un grand merci, Fred. Et puis, prends soin de toi.
Ouais, salut à vous, merci pour l'invitation. Bye bye.
Merci beaucoup, au revoir. Et puis, ben, quant à nous, du coup, on se laisse avec Sans Contexte et Mascarade en attendant le mois prochain pour un nouveau Tous Essentiels. Au revoir, Virginie.
Au revoir.
Je le revendique, j'aime pas que l'on me tyrannise. J'obéis pas, je discute tout. Je veux toujours avoir raison. Quand on me dit fonce, je reste assise. Quand on me dit reste pas en courant, j'ai l'esprit de contradiction en perpétuelle révolution.
Travail.
Et je suis infecté de plusieurs très grands mots. J'ai des problèmes d'autorité. Je supporte pas l'autoritarisme. Je regarde pas la télé. Je lis même quelques journaux. J'ai l'allergie congénitale à toutes les formes d'esclavage. J'ai une éthique et pas en toc. Je coupe pas les chines pour des prologues. Liberté épidermique, indépendance épidémique. La nonchalance comme un vice, glissé encore comme appendice. Je suis mal foutu, je tourne pas rond. J'ai des poils dans les mains. Je suis en retard tous les matins. Je fais la sieste après-midi et me parlez pas d'horaire de nuit.
Travail.
J'ai aucune motivation pour que vous gagnez du pognon, ni aucune ambition pour gravir les échelons. J'lèche pas les bottes, j'lèche pas les culs. Je passerai pas de cobat non plus. Je préfère tous vos actionnaires et j'enragerai tous mes collègues.
Travail.
On montera des piquets de crève, on réclamera de plus gros salaires. Ça me fout le cafard. Je serai plus mon propre négrier. Je préfère rien faire que de faire pour vous. Le farniente est au garde à vous. De les dissoudre. Je suis incompétente, inadaptée, même un peu. J'y veux. J'ai toujours réponse à tout. Surtout si on me demande rien. Je suis malade, j'ai mal partout.